avez-vous Bible? Est-ce qu'on peut relire ces versets en Exode chapitre 20? Exode chapitre 20. Je vais juste relire les trois premiers versets. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Voilà, donc après ce préambule, Je suis l'Éternel ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. Eh bien, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors, je crois que la première chose qu'on doit noter, c'est que nous savons, comme il savait, comme bien sûr Dieu savait en le disant, qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Il y a un seul Dieu, qui est le Dieu vivant et véritable. Et donc en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, Dieu ne présume pas qu'il puisse y avoir d'autres dieux. Il ne pense même pas que c'est ce que les Israélites vont penser. Il leur avait déjà dit, il le dira encore plus tard, on le retrouvera plusieurs fois en Deutéronome, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc ce n'est pas avant tout un argument pour le monothéisme, mais c'est plutôt un argument en faveur des prérogatives exclusives du Seigneur sur Israël. Alors une prérogative, c'est un avantage ou un droit qui est lié à certaines fonctions ou à certaines dignités. Et Dieu dit, j'ai une prérogative sur toi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deutéronome 4, verset 20, 39 dit: Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et qu'il n'y a point d'autre. Vous voyez? Donc, l'interdiction ici, le premier commandement, n'était pas qu'il faut pas croire qu'il y a d'autres dieux. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que cela. C'était pour exiger d'Israël qu'elle donne une allégeance sans partage au Seigneur, par opposition en fait à toute autre possibilité, toute autre chose. On essayait de réfléchir en famille à un exemple de cela et quelqu'un m'avait suggéré l'idée de dire à un enfant, tu n'auras pas d'autre père ou d'autre parent devant ma face. Alors, un enfant sait que c'est impossible qu'il y ait un autre père ou une autre mère. Chaque enfant n'a qu'un seul père et qu'une seule mère, biologique en tout cas. Mais si un parent dit à l'enfant, tu n'auras pas d'autre papa devant ma face, l'enfant pourra comprendre, je crois, que ce qu'il est en train de dire, tu n'auras personne qui prendra la place de moi, ton seul et vrai papa. Tu ne donneras pas ton affection qui m'est due en tant que ton papa à un autre. Tu ne donneras pas ta soumission qui m'est due en tant que ton père à un autre. Donc en disant tu n'auras pas d'autre père que moi, le papa ne dit pas à ses enfants, il y a plusieurs options de papa, il dit ton cœur, ton affection doit rester sur moi et ne pas être donnée à un autre. Donc quand Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, sachant qu'il n'y a vraiment pas d'autre Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Il est en train de dire, tu n'auras rien qui prendra la place de moi, ton seul vrai Dieu. Et bien sûr, ça ouvre la possibilité à n'importe quoi. N'importe quoi peut prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Même si ce sont des choses que nous disons, bon, c'est pas un Dieu. On a parlé de plusieurs exemples, on a entendu quelque chose en famille hier, qui parlait du sport, par exemple. Ça peut devenir pour nous un dieu parce qu'on donne à Dieu enfin, on donne au sport la place que Dieu seul mérite. Ou d'une voiture, des possessions, ou une autre personne même peut prendre la place de Dieu. Et nous devons comprendre la prédilection de l'homme de rechercher des dieux de sa propre fabrication, de vouloir toujours remplacer Dieu par autre chose. Nous adorons presque tout sauf le seul vrai Dieu. Nous sommes nés avec cette soif d'adorer. Nous sommes dans un sens tous des adorateurs. Mais on veut adorer tout sauf Dieu. Et je veux juste ce soir mentionner deux endroits, deux domaines dont nous pouvons facilement remplacer Dieu et dont le peuple Israël même a très rapidement remplacé Dieu. Le premier domaine, plusieurs options de passage, mais je veux lire en Deutéronome chapitre 6, si vous avez vos Bibles. Deutéronome chapitre 6, verset 4, c'est peut-être un des versets les plus connus par les Juifs encore de nos jours. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Donc, il n'y a qu'un seul Dieu. Et tout de suite après, il dit quoi au verset 5? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus lui-même a dit que ça, c'est la loi. Ça, c'est, si vous voulez, le résumé de toute la loi. D'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Donc il y a un seul Dieu et donc il faut l'aimer. Et il parle, verset 6, de ses commandements qui doivent être dans nos cœurs, de verset 7 au verset 7 où nous devons même les inculquer à nos enfants. Et puis il dit au verset 10, Deutéronome 6, verset 10, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas de grandes et de bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'es point remplis, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. Lorsque tu mangeras et que tu te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Encore, on revient au préambule des 10 commandements. Verset 13, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux. Voyez? D'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera ou s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de dessus la terre. C'est une question d'affection. Ça, c'est le premier domaine. C'est dans nos affections. Il dit, Israël, il n'y a qu'un seul Dieu et vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Peut-être le premier domaine dont nous transgressons ce premier commandement, c'est le domaine de nos affections. Car si nos affections sont placées sur autre chose, et l'Éternel donc est détrôné, si je peux le dire ainsi, de la première place dans notre affection, dans notre amour, nous avons transgressé contre le premier commandement. Il faut qu'on l'aime plus que toute autre chose. Et Jésus lui-même a insisté sur cette même affection. Il disait qu'on doit, en comparaison, même haïr notre propre famille et aimer Jésus-Christ avant toute autre chose. Donc de ne pas l'avoir en première place dans notre affection, c'est de transgresser contre ce premier commandement. Et puis, vous n'êtes pas obligé de le chercher, mais je vais vous lire un verset en Ésaïe 45, verset 21 à la fin et verset 22. Donc Ésaïe 45, 21 et 22. Et Dieu parle et il dit, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Donc un seul Dieu. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Et donc juste après, il va dire, verset 22, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités même de la terre. Donc le seul vrai Dieu est le Dieu qui sauve. Et donc, vous devez vous tourner vers moi. Pourquoi? Pour être sauvé. Donc, ça, c'est le deuxième domaine. Moi, j'ai choisi le mot notre confiance. On parle de notre affection et puis notre confiance. Notre confiance pour le salut. Il dit, puisque je suis le seul vrai Dieu, vous devez tourner vers moi. Et vous savez que dans les pages de l'Ancien Testament, souvent, le peuple allait vers d'autres dieux pour les sauver, pour les préserver, pour les secourir du danger, pour leur donner des enfants, pour qu'ils puissent pleuvoir sur la terre. Ils regardaient vers d'autres dieux pour leur apporter le salut, soit temporel ou physique ou même spirituel et éternel. Et Dieu dit non, je suis le seul Dieu juste qui sauve. Donc, tournez-vous vers moi. Donc, vous voyez, le premier commandement exige au moins ces deux choses, et on pourrait dire beaucoup plus, bien sûr, mais exige que Dieu ait la première place dans nos affections et qu'il soit l'objet tout entier de notre confiance, surtout pour notre salut. Et c'est pour soi. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et la Bible dit très clairement que celui qui croit en le Fils a la vie, et celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas la vie. Puisque Dieu, le Fils, et Dieu lui-même est le Sauveur. Jésus veut dire Yahvé sauve. C'est le nom que l'ange lui a donné de la part de Dieu. Yahvé, Dieu sauve. Dieu parmi nous est un Dieu qui sauve. Et le premier commandement exige qu'il ait la première place dans nos affections et puis qu'il ait aussi la totalité de notre confiance. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et quand nous transgressions contre ce commandement, l'image est assez forte. J'aime bien cette traduction quand il dit devant ma face. Ça devient un insulte personnelle au Dieu créateur, à Yahvé, à Elohim. De donner notre affection à un autre ou de mettre notre confiance dans un autre devient une insulte contre Dieu. Je termine avec ce verset en Philippiens, je crois que c'est verset chapitre 3. Et il parle de certaines personnes et il dit, ils ont leur ventre comme Dieu. Il dit, ils ont comme Dieu leur ventre. Et dans le contexte, je crois que Paul parle ici des gens comme les pharisiens qui avaient beaucoup de lois, il fallait manger ceci, il fallait manger cela. Et je crois qu'il parle de cela d'une façon ironique et il dit, ils font de leur pratique un Dieu, ils pensent que c'est ça qui va leur sauver. Ils pensent que ce qu'ils mangent ou ce qu'ils ne mangent pas, c'est ça qui va leur sauver. Et nous avons de très bons amis qui sont convaincus, par exemple, que pendant un certain mois, il faut pas manger quand le soleil est levé. Il faut seulement manger la nuit. Pourquoi ils ont cette pensée? Ils sont très sincères, très aimables, mais ils ont cette pensée qu'en mangeant ou ne mangeant pas à certaines heures et puis mangeant à d'autres heures, je vais pouvoir me sauver. Mais Dieu dit, c'est de faire de notre ventre un Dieu qui sauve. Ce n'est que Dieu, le seul vrai Dieu qui sauve. Et il nous sauve par son Fils Jésus-Christ. Donc, n'oublions pas le premier commandement. Tu ne vas pas devant ma face. Confessons nos péchés, confessons notre manque d'amour et notre manque de confiance. Et demandons au Seigneur de nous pardonner, car il est un bon sauveur qui sauve ceux qui viennent à lui dans l'humilité et dans la repentance. Prions le Seigneur. Ô Éternel, notre grand Dieu, nous savons que tu es le seul Dieu qui mérite notre affection et qui mérite notre confiance. Et nous savons aussi que tu es le seul être dans l'univers qui peut vraiment répondre à cet amour, pour que nous soyons entièrement comblés en t'aimant, et qui peut rester fidèle à ta parole pour nous sauver quand nous te faisons confiance. Et nous te remercions que celui qui vient à toi ne sera jamais rejeté, que tu tends tes mains toute la journée vers un peuple rebelle, et que tu invites chaque pécheur, chaque pécheresse, de venir même aujourd'hui pour avoir un plein pardon. Et nous prions qu'il y ait aujourd'hui même des personnes, des enfants peut-être, des adultes, qui viennent à toi dans la repentance et qui fassent de toi leur seul vrai Dieu. Et nous prions ces choses dans le nom de Dieu le Fils et pour sa gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse et qui vous garde.